Radio Primitive.
Légal depuis 1981.
Ça peut être à la fois quelque chose de, ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que en fait vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Le problème, c'est que on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils ont pas leurs papiers. Si la loi, elle, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, bonsoir, c'est les Régors. Chaque semaine, sur l'écho du Garrigue à Montpellier, Canal Sud à Toulouse, et bien évidemment, Radio Primitive sur Reims, où cette émission est réalisée. Les Régors, une parole anarchiste communiste.
Run them jewels fast, run them.
Ni Poutine, ni OTAN. Internationalistes, nous refusons de nous laisser enrégimenter par l'un ou l'autre des deux camps qui ont jeté leur dévolu sur le territoire de l'Ukraine pour s'affronter militairement. Chacun à leur échelle, Poutine, Zelensky, Macron, Biden et consorts ne sont que des courtiers du capital. En affaire un jour, nouant des alliances de circonstances, ils s'empressent de les renverser au besoin et de s'affronter le lendemain si la protection ou l'expansion de leur zone d'intérêt l'exige. Ce petit jeu se termine toujours mal pour les populations qui en font les frais. C'est un de ces dramatiques coups de théâtre auxquels nous assistons impuissants depuis peu. Un de ces événements qui, durant tout le XXe siècle, ont accompagné au rythme des convulsions du capitalisme les menées impérialistes des États. À tort, les populations de la vieille Europe se croyaient désormais épargnées par les conflits armés. Elles se figuraient les guerres reléguées aux confins des zones périphériques. Pourtant, la dislocation de la Yougoslavie et son partage en zones d'influence sous la pression des puissances impérialistes sonnaient à l'époque comme une mise en garde. Que le Kremlin abrite des canailles sanguinaires ne laisse planer aucun doute. Nous sommes conscients que Poutine et sa mafia ne reculeront devant aucune atrocité afin d'atteindre les objectifs qui se sont fixés. Sa volonté s'accomplira au prix de la répression des populations qu'il tient sous sa coupe, voire des secteurs de sa propre bourgeoisie qui auraient l'intention d'entraver ses plans. Mais il faut bien voir l'État français donner la leçon à son homologue russe. Entendre Macron, comme avant lui ses prédécesseurs, pontifier sur la démocratie et les valeurs de l'Europe face aux tyrans ou à un fou relève de l'invitation à la rêverie. Il suffit de jeter un coup d'œil, même rapide, sur la politique internationale que mène l'État français en matière de soutien aux dictatures et de commerce des armes. On est le quatrième du monde. Pour comprendre combien chez ces gens-là, les belles paroles s'envolent dès que se prolifère, dès que se profilent de potentiels intérêts commerciaux ou stratégiques. Il semblerait même qu'une victime civile des pillonnages de l'OTAN en Libye n'ait pas la même valeur qu'un martyr de la guerre en Ukraine. Du moins peut-on le supposer quand Natacha Bouchard, la mère de Calais, d'habitude peu réceptive à l'adversité qui frappe les exilés errants aux alentours de sa ville, s'est inexplicablement ouverte au suffrage de réfugiés en provenance d'Ukraine. Certains se demandent comment agir ou intervenir en réaction à cette guerre. D'abord en refusant de jouer les va-t-en-guerre et de tomber dans le piège de l'unité nationale et du poison patriotique, quel qu'il soit. Ensuite, comme d'habitude, en réclamant la libre circulation des personnes et l'ouverture des frontières, de toutes les frontières. Enfin, nous savons que notre camp, celui des travailleurs et des chômeurs, celui des prolétaires, sera le premier et le seul à payer le prix fort de cette aventure criminelle. C'est donc en Ukraine, en Russie, en France et ailleurs, contre nos propres bourgeoisies que nous devons mener l'offensive. Macron, encore lui, entend nous protéger, dit-il. Lui qui, durant la pandémie, n'a su qu'incarcérer à domicile l'ensemble de la population et dépecer l'hôpital public, nous promet déjà, s'il est reconduit dans ses frontières, de nous faire crever au travail. Cette guerre et ses conséquences s'offrent comme un nouveau moyen d'étouffer dans l'œuf toute contestation sociale à venir. Nous devons au plus vite reprendre le chemin de la mobilisation dans les entreprises, dans les quartiers et dans la rue. Nous devons, de la mesure du possible, tenter d'établir des contacts avec celles et ceux qui, dans les États aux prises dans ce conflit, tentent de s'y opposer. En Russie, par exemple, des féministes bravant la répression d'État constituent l'un des mouvements sociaux les plus actifs. Désormais, elles s'unissent dans la répression contre la guerre de Poutine. Cette guerre n'est qu'une catastrophe supplémentaire qui s'ajoute à la longue liste des méfaits d'une civilisation capitaliste frappée de crises profondes et peut-être même agonisantes. Face au chaos qui est là, à la montée des nationalismes et des replis identitaires, nous devons retrouver le chemin qui mène à l'émancipation sociale et à la solidarité de classe internationale. La nécessité d'un nouvel horizon pour l'humanité s'impose, donc avec acuité, mais cet espoir ne sortira pas des urnes, ni ici, ni ailleurs, ni demain, ni jamais. Abat la guerre, abat tous les gouvernements. Cette exigence politique remet la nécessité de la révolution sociale à l'ordre du jour. Bon, ce texte que je viens de vous lire a été fait par nos petits camarades de Boulogne-sur-Mer, samedi. Comme on s'y reconnaît totalement, eh bien, j'ai décidé de vous le lire.
Oui, bah, t'as bien fait, effectivement. C'est déjà une bonne introduction. Bon, c'est un peu, histoire de commencer de manière bien posée. Mais c'est vrai que la situation est quand même assez catastrophique, puisque on pourrait dire. À la différence des autres conflits au cours du XXe siècle, on a peut-être là la possibilité d'une destruction et d'une guerre totale et d'une destruction générale, puisque les individus qui nous gouvernent continuent dans la surenchère. Cet imbécile de Le Drian a déclaré il y a quelques jours que l'OTAN était une alliance militaire, une alliance nucléaire, pardon.
Comme si on ne savait pas.
Voilà, histoire de bien montrer à Poutine qu'ils étaient prêts. Je crois que ces gens-là ne se rendent vraiment pas compte. Je crois que malheureusement, les camarades de Boulogne-sur-Mer l'ont dit, la guerre, c'est vraiment la plus tragique, de manière la plus tragique, la mise en lumière de l'injustice fondamentale et historique dans laquelle ceux qui décident ne subissent pas les conséquences de leurs décisions. Et aujourd'hui, comment faire pour avoir une position alors que on déteste Poutine, évidemment, on déteste l'OTAN, on déteste la guerre et on déteste les dirigeants, quoi. Et nos dirigeants, quoi. Et c'est extrêmement difficile d'avoir une position, en tous les cas, de l'expliquer, de l'expliciter, puisque en plus, derrière, on a une idéologie énorme. Alors, le texte auquel se réfère, la notion auquel se réfère nos camarades de la mouette enragée, c'est le pacifisme. Alors, le pacifisme, évidemment, quand il n'y a pas de guerre, c'est très facile à défendre, et puis c'est une valeur plutôt admise, voire même valorisée, parce que elle est abstraite et elle n'engage à rien, quoi. Mais aujourd'hui, quand on est en temps de guerre, c'est vraiment une position très difficile, parce qu'elle est associée soit à la lâcheté, soit voire à la soumission à l'ennemi, soit à être partisan de l'ennemi, quoi. Aujourd'hui...
C'est évident que, de toute façon, quand tu... ne pleure pas dans les chaumières avec les Ukrainiens, tu ne peux être que pour Poutine.
C'est, tout à fait.
C'est clair. Hein, ça, c'est...
En plus, on a aujourd'hui vraiment une mobilisation de la bourgeoisie pour nous vendre une version et en tous les cas mettre en avant l'héroïsme du peuple ukrainien et de son président qui reste en place au lieu de se bouger. J'en veux pour preuve, ce week-end, il y avait au Théâtre Saint-Antoine à Paris... notre ami BHL, comme d'habitude, et qui, évidemment, avec le président Courage Zelensky, le général Petraeus, évidemment, qui était là pour intervenir au Théâtre Saint-Antoine, etc., etc. Évidemment, personne ne met en avant le courage et l'héroïsme des Russes qui manifestent au péril de leur liberté et de leur vie. Il y a encore des manifestations, il y a encore eu des manifestations dimanche avec plusieurs milliers d'interpellations. C'est vraiment super de voir qu'il y a encore des gens qui arrivent à braver toute l'aliénation et toute la peur qui peut y avoir, quoi. Alors bon, nous effectivement on peut que défendre cette position de pacifisme, même si on est capable de reconnaître les responsabilités et que pratiquement, on va dire concrètement, effectivement, c'est Poutine qui envahit l'Ukraine. Mais derrière ça, il y a toute une hiérarchie, il y a toute une histoire. Il y a une histoire longue, longue, longue. Il y a une histoire très proche, qui est celle de la chute du mur de Berlin, de la dislocation de l'Union soviétique et des rapports de force après la guerre froide entre les hégémonies et les blocs impérialismes. Ce qu'on veut dire par là, c'est que, évidemment, on dénonce l'impérialisme américain, on n'est pas stupide, mais en même temps aussi on dénonce l'impérialisme russe qui ne date pas d'hier, hein, depuis le tsar en passant par les bolcheviks. Il n'y a pas de problème sur l'impérialisme russe, hein. C'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures soupes, hein. Donc là-dessus, notamment vis-à-vis de l'Ukraine, hein, que ce soit dans le projet du tsarisme de la Grande Russie ou la destruction et le massacre par les bolcheviks des paysans macnovistes, puis ensuite la famine par Staline. Cet impérialisme, il s'est décliné aussi au cours du XXe siècle par l'envahissement de la Hongrie ou l'intervention en Pologne par Jaruzelski ou alors en Afghanistan, quoi. Donc ne soyons pas naïfs là-dessus. Mais plutôt essayons de voir ce que nous on peut faire. Déjà effectivement dénoncer tout le ramassis de va-t-en-guerre de ces bourgeois là qui viennent nous faire la leçon de pseudo-intellectuels ou demi-sel.
Mais ça marche, hein.
Ouais.
Ça marche dans tous les médias. Enfin, je veux dire, par là, tu écoutes n'importe quelle télévision, n'importe quelle chaîne de télévision, c'est évident. Que on fait partie du camp de l'OTAN, c'est clair, on a compris. Donc on est d'accord, ils sont d'accord pour dénoncer que Poutine, c'est-à-dire qu'ils dénoncent pas le reste. Hein. Ils ne se regardent pas l'histoire de ce qui s'est passé, comme tu l'as dit, dans les années 90. Et je crois qu'on va y revenir tout à l'heure. Avec une interview de quelqu'un.
Tout à fait. Non, mais de toute façon, on va leur donner une bonne nouvelle à ces gens-là. Hein. C'est que le président ukrainien a fait un appel aux volontaires internationaux. Donc, s'ils veulent défendre l'Ukraine et s'ils pensent c'est là que ça se passe, ils sont attendus très fortement là-haut. Et puis, on va voir vraiment qui c'est qui va être capable de se bouger, quoi. Nous, ce qui peut nous faire, c'est effectivement assumer une solidarité concrète et réelle. Vis-à-vis des populations contre leurs États. accueillir les déserteurs russes avec plaisir, et puis évidemment se battre contre les comment dire les oligarques et mais pratiquement, c'est-à-dire que aujourd'hui il y a des yachts des oligarques qui sont à Saint-Barth ou en baie de Monaco, il y a une exposition à la fondation Louis Vuitton, une exposition Mazarov qui fait partie du soft power russe pour se diffuser, qui est là. Là, il n'y a pas de problème, il n'y a pas eu de boycott. Hein. Par contre, ce qu'il faut vraiment assurer, c'est la solidarité vis-à-vis des peuples. Et quand on entend des déclarations qui proposent notamment cette série de sanctions qui proposent de mettre à genoux l'économie russe, on sait très bien que c'est d'abord la ruine pour des millions d'ouvriers et d'employés qui, en plus, vont pouvoir rejoindre
avec les conséquences que ça aura pour nous.
Ouais, et les conséquences sans eau, mais en plus qui risque de resserrer le peuple russe dans la propagande poutinienne, quoi. C'est évident. Et puis il y a quelque chose à revendiquer, c'est le retrait et le cessez-le-feu. Mais pour ça, il va falloir le défendre vraiment massivement et vraiment surtout bien penser que si on n'arrive pas à contrer l'engrenage meurtrier qui est en train de se dérouler, les conséquences risquent quand même d'être très 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 violentes. Alors à savoir une situation de crise, notamment sur les énergies et sur
le blé.
Le blé et l'interdépendance aujourd'hui, l'interconnexion des économies qui sont totalement reliées. Bertrand Badie reviendra tout à l'heure. De toute façon, j'ai même pas besoin de vous l'expliquer. En une semaine, le prix de l'essence vient de prendre 10%. Ça va être pareil pour la bouffe, quoi. C'est clair. Être très attentif à ceux qui vont profiter de cette situation pour s'enrichir. Et puis surtout, vraiment être conscient que de toute façon, il n'y a aucun des intérêts qui seront défendus là-dedans, puisque faut quand même le dire. Voilà, il y a des ogives nucléaires qui se baladent un peu partout. On n'est jamais à l'abri d'une folie, hein. On n'est jamais à l'abri d'un individu qui est capable de nous faire basculer dans l'horreur. Et puis ce qu'on peut espérer évidemment nous, c'est que en partie de la guerre est née la révolution russe. Est-ce que ce chant du cygne, est-ce que la population russe va avoir la force et la possibilité d'accentuer la crise pour enfin se débarrasser de ses dirigeants et essayer de prendre en main un peu plus les choses? C'est malheureusement tout ce qu'on peut leur souhaiter. Alors, on aura peut-être l'occasion de revenir un petit peu sur cette histoire quand même, parce que on entend des choses et on est quand même assez halluciné, quoi, de voir qu'on a l'impression
le coup de la mère de Calais, c'est incroyable quand même. Cette bonne femme qui est d'ailleurs passée de la droite à chez Macron récemment. Cette bonne femme a tout fait pour qu'il y ait sur sa ville la chasse aux migrants. Il faut dire qu'ils sont noirs, hein, bien souvent. Hein. Et là, dès qu'il y a ce qui se passe en Ukraine, elle convoque la télévision pour dire qu'elle est là pour accueillir, qu'elle est tout à fait d'accord pour accueillir des Ukrainiens. C'est vraiment scandaleux. Enfin, je veux dire par là, alors qu'elle a eu sur ses terres des dizaines et des dizaines et des centaines de Syriens, d'Afghans, etc., et qu'elle les a foutus aux pâtures. Non, mais c'est
un cynisme.
C'est un cynisme, mais ça me révolte en plus.
Ouais, non,
et ça passe à la télé, ça. Il y a pas de problème.
C'est d'un cynisme absolu, c'est clair. Mais à partir du moment où t'as dit qui était le gentil et qui était le méchant,
bah oui,
c'est bon, quoi. C'est parti. Et en plus, tout le monde se paye des costards à pas cher. Que ce soit le président ukrainien Vladimir Zelensky, qui est trempé jusqu'à la moelle dans la corruption avec des sociétés offshore partout, que la crise en Ukraine, elle existe depuis 2004, qu'elle s'est amplifiée en 2014, que ça fait 8 ans que c'est le bordel et que personne n'a été capable de trouver les moyens de créer les conditions d'une discussion sereine. On va se remilitariser à fond les ballons, qui est quand même incroyable, que l'Allemagne se remilitarise, qu'on a décidé qu'on allait racheter des armes partout, tu l'as dit en introduction, quatrième exportateur de flingues et de saloperies, bah tu parles qu'à un moment il faut que ça serve, hein, forcément, hein, c'est pas fait pour faire beau, hein, et qu'en plus on se permet de dire des trucs alors que évidemment, bien sûr que la population ukrainienne, elle est héroïque, mais il n'y a rien à mythifier. Il y a autant être solidaire avec elle qu'avec les pauvres soldats russes qui sont en train de se faire massacrer et qui sont utilisés comme chair à canon pour rien du tout, quoi. Ouais. Vraiment rien du tout, quoi. Alors bon, on l'a dit et on le répète, malheureusement, c'était un peu décousu, pardon. Oui, ben oui, la guerre, c'est le capitalisme. Et le capitalisme, eh ben, c'est ceux qui prennent les décisions, eh ben, qui en profitent, évidemment. Et c'est ceux qui subissent les décisions, qui ne les prennent jamais. Parce que si on demandait vraiment aux Ukrainiens, aux Russes, ce qu'ils ont envie de faire, on peut être largement persuadé qu'ils auraient très envie de vivre tranquillement ensemble, peinards, sans que rien ne viennent les emmerder parce qu'il y a un bout de frontière qui est là ou parce qu'un tel parle pas la même langue que l'autre. Voilà. On va se faire une pause, on va respirer et puis après on présentera notre extrait sonore.
Bonjour Bertrand Badie.
Bonjour.
Alors, vous avez théorisé il y a quelques années la puissance de la faiblesse. En gros, vous décriviez la tendance...
Voulait vous passer, mais c'est pas grave. Voilà, c'est parti, on se retrouve après Bob Marley.
Jean-Bertrand Badie.
Alors, bah oui, évidemment, Bob Marley, ça ne pouvait que se prêter. Alors, on vous propose d'entendre une interview, un entretien qu'on a trouvé sur le web, un entretien avec Bertrand Badie. Bertrand Badie est un enseignant à 70 ans à la retraite, hein, mais de relations internationales. Et l'avantage de Bertrand Badie, c'est que au vu de son expérience d'une part, et aujourd'hui le fait d'être retiré de l'enseignement et de l'université d'autre part, il a un certain recul et une certaine liberté. En effet, les relations internationales, c'est une science. C'est quelque chose qu'on enseigne, mais c'est pas forcément une science dure dans le sens où tout le monde se dit la même chose, mais qui en tous des cas permet de comprendre en tous des cas les enjeux et les rapports de force. Et ce que fait Bertrand Badie, c'est qu'il intègre ces enjeux et ces rapports de force dans le long cours historique, et surtout, comme je vous l'ai dit, comme il a plus vraiment grand chose à défendre, il a la liberté de pouvoir aller jusqu'au bout des choses. Et effectivement, de pas réfléchir en termes de camp de bien et en termes de camp de mal. Et donc, dans cet entretien qu'on va vous diffuser, Bertrand Badie essaye de réfléchir, en tous les cas, aux conséquences d'une part des sanctions condamnées à la communauté internationale vis-à-vis de la Russie, et puis aujourd'hui, quel est l'état de ces relations internationales, comment est-ce qu'on peut penser les échanges et la diplomatie dans le monde alors que la guerre froide est terminée et que au cours des 50 dernières années, on l'a vu et on l'a répété, il n'y a pas eu une guerre qui a été gagnée par une grande puissance. C'est tout ça qu'il faut se dire quand on réfléchit aux relations internationales et quand on essaye d'analyser la situation. Mais je me tais, on laisse la parole à Badie qui l'explique beaucoup mieux que nous.
Bonjour Bertrand Badie.
Bonjour.
Alors, vous avez théorisé il y a quelques années la puissance de la faiblesse. En gros, vous décriviez la tendance qui veut que les rébellions, les insurrections, les épidémies, etc. déterminent l'agenda international plus efficacement que les grandes puissances et leur agenda. Là, en Ukraine, la Russie de Vladimir Poutine nous sort toute l'armada de la puissance ces derniers jours. Est-ce que c'est un retour à la case 20e siècle? Ou alors c'est le retour en force de la force?
Non, ce n'est pas un retour. Les retours n'existent pas parce que les contextes changent. Et parler, comme on le fait souvent en ce moment, de retour de la guerre froide, c'est une erreur. Parce que si vous regardez toutes les composantes de la guerre froide, à savoir confrontation entre deux idéologies très polarisées, entre deux systèmes militaires d'égale capacité, partage d'un code commun qui est celui de la dissuasion réciproque, de l'équilibre de la terreur, incommunicabilité entre les États, c'est-à-dire ce qu'on appelle le campisme, rien de tout ça ne se retrouve aujourd'hui. Ce qui est intéressant, c'est non pas le retour de la guerre froide ou le retour de la puissance, mais c'est chez certains perdants la nostalgie d'un temps ancien. Faut pas oublier que la Russie d'aujourd'hui descend directement de l'URSS d'hier et que l'URSS, il y a 40 ans, 30 ans, était encore l'un des deux coprinces du monde. Là, l'URSS s'est effondrée, la Russie qui lui a succédé a été marginalisée. C'est un peu comme si en football, vous étiez leader de la Ligue 1 et que vous vous retrouvez en division d'honneur. Personne ne vous prend en considération. On explique même maintenant que le monde est partagé par une nouvelle tension entre la Chine et les États-Unis, la Russie est exclue, et son tsar, M. Poutine, éprouve un ressentiment, non seulement à l'égard des États-Unis et de l'Occident, mais d'une façon générale à l'égard de la mondialisation, dont il se sent finalement exclu. Et que joue-t-il ? La carte du retour à un monde qui est fini. Le retour à la puissance. Regardez son langage. Il dit des choses quand même incroyables, du style qu'il veut dénazifier. Dénazification de l'Ukraine. C'est incroyable. On peut penser ce qu'on veut de M. Zelensky, on peut penser ce qu'on veut des dirigeants ukrainiens. C'est pas un régime nazi, ce ne sont pas des nazis.
Mais quand même, pendant la révolution du Maïdan, on avait quand même évoqué la présence de groupes néo-nazis aux côtés de ceux qui étaient portés par cette révolution orange. Donc il y avait toute cette discussion, est-ce que c'était une révolution démocratique ou alors une sorte de retour aux vieux démons de l'Europe ? Non, mais peut-être que dans le storytelling, Vladimir Poutine s'en saisit pour diaboliser son adversaire.
Sauf que des néo-nazis, hélas, on en retrouve un peu partout. On en trouve même en France. Et on trouve une extrême droite en France qui est autrement plus puissante aujourd'hui, le tiers des électeurs, que représente l'extrême droite en Ukraine au jour d'aujourd'hui. De même qu'en Russie, on retrouve des nostalgiques du nazisme. Il faut pas oublier que la société Wagner est dirigée par un homme qui l'a appelé Wagner parce que il était nostalgique de cette Allemagne nazie et qu'il voulait rendre hommage au grand compositeur allemand qui était l'idole du nazisme en son temps. Donc
Wagner, qui est une société militaire privée très présente en Ukraine, justement, et en Afrique.
Et en Afrique. Alors, ce que je voulais dire, c'est cela. C'est-à-dire, face à des changements qui sont très défavorables à la Russie, qui lui ont valu de perdre son empire, c'est-à-dire au moment de l'effondrement de l'URSS, 14 républiques s'en sont détachées, eh bien, on voit Monsieur Poutine revenir au passé impérial de la Russie, vouloir le reconstituer. Et quand je parlais de dénazification, c'est un terme qui était couramment employé en 1945. C'était même le nerf de la conférence de Yalta et de celle de Potsdam. Nostalgique d'un passé stalinien, d'un passé qui valait à la Russie de compter et de peser dans le monde, on voit aujourd'hui, effectivement, cette Russie jouer de la puissance. Mais ce qui est intéressant, et c'est là qu'on voit bien que le monde a changé, c'est que la stratégie de Poutine consiste à jouer de la puissance en sachant que le camp d'en face, qui est, je dirais, arithmétiquement plus puissant que la Russie, c'est-à-dire le camp occidental, les États-Unis, leurs alliés, l'OTAN, est incapable de jouer ce jeu de la contre-puissance. C'est-à-dire qu'on voit bien que le monde occidental a basculé dans une ère nouvelle qui est dominée davantage par les sociétés, comme vous le disiez tout à l'heure, que par les logiques de puissance. Et Poutine parie là-dessus pour considérer qu'effectivement, le bloc occidental ne pourra pas répondre à la puissance, parce qu'il est dominé par une opinion publique non interventionniste, et surtout parce que les intérêts économiques du monde occidental sont tels que se lancer dans une guerre contre la Russie, ou en tous les cas dans une politique de contrepoids militaire à la Russie, paraît trop coûteux, et c'est la raison pour laquelle M. Biden lui-même ne se gêne pas pour dire qu'il n'est pas question d'intervenir militairement en Ukraine. Donc c'est en quelque sorte une résurrection stratégique de l'ancien monde pour pouvoir se reconstituer comme empire, mais c'est une chimère. Parce qu'il y a quand même le peuple ukrainien, et lui, il compte.
Alors vous avez théorisé l'humiliation aussi comme moteur de l'histoire. Qui est humilié dans cette affaire ? Est-ce que c'est justement l'Empire russe qui, justement, parce qu'il est humilié, a les ressources pour l'ex-Empire russe pour s'exprimer à défaut de s'imposer ? Est-ce que c'est l'Ukraine ? Est-ce que c'est l'Occident qui, finalement, est moteur de l'histoire ? Qui est le plus humilié, celui qui a le plus envie de se rendre justice ?
Alors d'abord, l'humiliation joue un rôle extrêmement important dans cette crise. Et c'est vrai que l'humiliation nourrit la stratégie et les appétits de M. Poutine. La Russie a été humiliée en 1989-1991. Et elle l'a été, je dirais, par la maladresse, par l'excès de confiance, peut-être l'arrogance du bloc occidental. À l'époque, l'URSS avait perdu la guerre froide, donc les principales puissances occidentales, et notamment les États-Unis, se sont installées dans les habits du vainqueur. C'est-à-dire, on présentait le monde nouveau qui suivait l'effondrement du mur comme étant un monde unipolaire entièrement dominé par les États-Unis. La Russie, à laquelle on avait promis de créer un ordre international nouveau dans lequel elle trouverait sa place, a été complètement marginalisée, oubliée. L'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, l'OSCE, qui devait prendre le relais de tout cela pour créer un ordre européen, a été peu à peu réduite quasiment au silence. Et donc, la Russie, comme je le disais tout à l'heure, coprince du monde, s'est retrouvée tout d'un coup dans les coulisses. Et ça, ça a été une source d'humiliation.
L'OSCE aurait une institution plus efficace que l'OTAN pour discuter et arriver à des compromis ?
Bien sûr. Je pense
Pourquoi, structurellement ?
Eh bien, parce que l'OSCE avait pour vocation de rassembler, avait pour vocation de créer les conditions d'une intégration raisonnable. Quand je dis intégration raisonnable, c'est une intégration au sein de l'Europe, car le temps est celui de l'intégration, et plus celui du campisme, mais raisonnable parce qu'on ne pouvait pas espérer de l'OSCE une intégration totale et absolue, et elle devait de toute manière ménager les souverainetés, notamment celle de la Nouvelle-Russie. Mais en fait, de promouvoir l'OSCE, dès 1991, on a maintenu l'OTAN. Et ça a été une faute historique, une double faute historique.
– L'OTAN a quand même réussi à survivre à la chute du mur et à la fin de la guerre froide. –
Plus que ça, plus que survivre, puisqu'elle a absorbé la quasi-totalité des États qui étaient membres du pacte de Varsovie et a même rongé… –
C'est-à-dire l'alliance autour de la Russie à l'époque de la guerre froide.
– Exactement, et a même rongé dans les anciennes républiques soviétiques, puisque les trois États baltes en sont devenus membres. Donc tout ceci montre que l'OTAN, qui aurait dû considérer que sa tâche était achevée, le pacte de Varsovie était dissous, l'URSS n'existait plus, on entrait dans la mondialisation, il fallait penser une architecture internationale et mondiale nouvelle. Pas du tout, on a maintenu l'OTAN. D'où la phrase célèbre de François Mitterrand, qui avait dit à l'époque, peu convaincu de l'opportunité de maintenir l'OTAN, on est en train de créer la Sainte Alliance, ou de recréer la Sainte Alliance, vous savez, qui au XIXe siècle réunissait les monarques légitimistes d'Europe pour se soutenir entre eux. Ben, c'est un peu l'image qu'a donnée cette OTAN et qui est probablement la source d'une seconde humiliation. Parce que non seulement la Russie s'est sentie marginalisée dans ce nouveau jeu international, mais elle s'est sentie, à tort ou à raison, menacée ou en tous les cas en risque de déstabilisation du fait de l'existence, de la pérennisation de l'OTAN et du renforcement de celle-ci à ses frontières. On a perdu la dernière décennie du XXe siècle pour aménager cette nouvelle architecture internationale. Le grand responsable était le président des États-Unis de l'époque, William Clinton, et de sa secrétaire d'État, Madeleine Albright, qui était directement issue de la guerre froide. Vous savez que c'est une personne issue de l'immigration tchèque et qui, à elle-même, représente l'histoire douloureuse, d'ailleurs, des États d'Europe orientale. Et Clinton a tout simplement gelé le jeu dans l'État l'on avait trouvé en 1991.
Il n'a rien donné.
Non seulement il n'a rien donné, mais il n'a rien inventé. Ce dont on a besoin dans l'ordre international actuel, c'est d'inventer, d'innover, parce que le contexte international change à une vitesse extraordinaire. Il y a eu la décolonisation, il y a eu la dépolarisation, c'est-à-dire la disparition d'un des deux camps, puis il y a eu la mondialisation. Trois bonnes raisons de repenser l'architecture mondiale. Et aucune de ces raisons n'a été sérieusement travaillée. On a marginalisé la décolonisation, on a nié le rôle des nouveaux États issus notamment des décolonisations en Afrique et en Asie. On a fait comme si la fin de la guerre froide, c'était la victoire absolue du camp occidental, en ignorant la montée des émergents et en particulier de la Chine. Et puis enfin, on a négligé la mondialisation qui impliquait De fait, incontournablement, de nouveaux paramètres dans le jeu international.
Mais en parlant justement de la mondialisation, est-ce qu'il n'y a pas une sorte de nouvelle OTAN qui est chargé d'encercler la Chine, parce que les priorités stratégiques des États-Unis se déportent un peu sur l'Asie, et on voit qu'un certain nombre de pays voisins de la Chine s'allient aux États-Unis et reçoivent des armes américaines. Est-ce que, finalement, c'est la seule stratégie que connaissent les États-Unis, c'est-à-dire l'encerclement des menaces? C'est-à-dire, aujourd'hui, la menace chinoise n'est pas une menace militaire, mais c'est une menace économique.
Oui, mais ne simplifions pas. C'est dans la simplification que l'on sème les graines de la guerre. Regardez l'Asie en face. L'Asie en face, ce n'est pas, comme le disent certains, un camp pro-occidental autour des États-Unis et le camp chinois, avec des alliés d'ailleurs assez incertains, on ne connaît pas bien. C'est beaucoup plus compliqué que ça. L'an dernier a été créé le RECEP, c'est-à-dire une organisation d'intégration commerciale régionale, qui regroupe dans un même ensemble la Chine, avec, figurez-vous, des pays qui sont politiquement considérés comme ses adversaires, à savoir le Japon, l'Australie, on pourrait y ajouter la Corée du Sud, là l'adversité est moindre, mais elle est quand même sensible, et cet ensemble représente 40% du commerce mondial. Présenter les puissances moyennes asiatiques comme étant des alliés des États-Unis contre la Chine, c'est commettre une erreur.
– Est-ce que les États-Unis projettent eux-mêmes, en tout cas dans leur discours ?–
Oui, ils projettent, mais en même temps, ils voient bien qu'il y a une intégration économique et commerciale qui lie de fait ces États et surtout ces sociétés les unes avec les autres. Regardez des choses surprenantes qu'on ne dit jamais. L'importance des investissements taïwanais en Chine continentale, par exemple. Le fait que le Japon soit le premier partenaire économique et commercial de la Chine. Tout ça montre que les choses sont beaucoup plus compliquées. Qu'en réalité, il y a effectivement de la compétition politique, parce que ça, c'est issu de l'ancien monde, qu'il y a des tensions, et Dieu sait s'il y en a en mer de Chine, mais il y a en même temps une activation des interdépendances économiques, sociales, commerciales, financières entre tous ces États que la Russie ne connaît pas. C'est ça la différence entre la Russie et la Chine. En ce moment, beaucoup de commentateurs veulent considérer que la Russie et la Chine, parce que ces deux dictatures, marchent la main dans la main. C'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Parce que la faiblesse de la Russie par rapport à la Chine, c'est d'avoir une interdépendance économique avec le reste du monde beaucoup plus faible que la Chine.
Alors, finalement, on parle beaucoup d'économie, là où on parle de stratégie et là où on pourrait parler de guerre ou de future guerre, les États-Unis ont placé leur affrontement avec la Russie sur le terrain économique, annoncé qu'ils mèneraient une guerre économique à la Russie avec des sanctions économiques, notamment priver les Russes des dollars, les empêcher de commercer avec le reste du monde, même utiliser le système SWIFT, qui est le système interbancaire contre la Russie. Est-ce que ça marchera ?
Ben, c'est justement là que tout se joue. C'est-à-dire, la sanction, le fameux régime des sanctions, est considéré, notamment en Occident, principalement en Occident, comme le nouvel instrument de domination. Un peu le substitut de la guerre. On ne fait plus la guerre, mais on sanctionne. Et si on sanctionne drastiquement, les résultats sont considérés, espérés comme identiques, voire supérieurs, parce qu'effectivement, ils sont moins coûteux que de se lancer dans une guerre classique. Mais ce qu'on ne voit pas, c'est un certain nombre de choses. C'est que depuis que les sanctions existent et deviennent même monnaie courante dans le jeu international, eh bien, il est très rare d'avoir des cas de succès probants. Regardez la Corée du Nord, regardez l'Iran, regardez la Chine, regardez la Russie après l'invasion de la Crimée. On n'a pas vu d'effet d'efficacité, je dirais, de la sanction. La deuxième chose à prendre en compte, et qui est déterminante aujourd'hui, c'est que les sanctions se révèlent aussi coûteuses ou presque aussi coûteuses pour ceux qui la prennent que pour ceux qui la reçoivent. Et ça, c'est quelque chose qui est parfaitement évocateur des conditions nouvelles de la mondialisation. C'est-à-dire, il n'y a pas des économies nationales, il y a un système économique mondial. Et si vous prenez des sanctions économiques contre un partenaire, celles-ci vous reviennent comme par effet de boomerang. Et c'est là la difficulté dans laquelle se trouvent les Occidentaux. Vous évoquez le système SWIFT, le système bancaire, mais exclure la Russie du système bancaire va créer en cascade toute une série de conséquences financières et économiques qui vont affaiblir les économies occidentales.
Certaines plus que d'autres quand même, parce que finalement, ça pourrait être aussi le lieu de la discorde parmi les alliés. On voit bien que l'Allemagne pourrait payer un prix élevé aux sanctions contre la Russie, notamment un renchérissement du prix de l'énergie qui est très important, puisque c'est la puissance industrielle par excellence de l'Europe, alors que d'autres pays peut-être en souffriraient un peu moins.
Alors, ben justement, ça va dans le sens de ce que je vous dis, et peut-être du pari de Poutine, c'est-à-dire les sanctions, ça ne marchera pas parce que ça compliquera les relations à l'intérieur du camp occidental et aussi la capacité du système occidental à faire face à ce nouveau contexte économique. Alors, l'énergie est un bon exemple. On n'est plus là dans le système bancaire, mais dans le système énergétique. L'Europe a besoin de sources énergétiques, qui à 40% sont couverts quand même par les énergies issues de la Russie et principalement par le gaz russe. Et le problème, c'est que on peut sanctionner lorsqu'on est sûr d'avoir des substituts.
Ben, l'Europe, en tout cas la Commission européenne, Ursula von der Leyen, elle dit qu'elle a des alternatives.
Oui, mais j'aimerais bien en être persuadé, parce que si vous prenez le gaz, par exemple, vous avez le gaz norvégien et le gaz algérien, auxquels on pense spontanément, qui sont les plus proches, si vous voulez, ils ne suffisent pas à couvrir cette énorme consommation de gaz qui caractérise l'Europe. Il y a le gaz qatari, les Qataris eux-mêmes disent « nous, on ne pourra pas être un substitut parfait ». Donc on s'engage vers de nouvelles tensions. Et si vous mettez bout à bout les effets négatifs du Covid sur l'économie européenne, l'économie occidentale, et les effets de ces nouvelles sanctions, vous aggravez les conditions économiques des pays occidentaux. Peut-être que M. Poutine joue là-dessus pour penser qu'il porte ainsi une nouvelle dissuasion.
Alors, est-ce que finalement, ce sont les sociétés qui ont le plus peur des pénuries, qui sont les plus consuméristes, qui sont les plus fragiles face à ces guerres d'influence économique couplées à des coups de pression militaire? Peut-être que d'ailleurs, c'est ce que Vladimir Poutine se dit, peut-être en surévaluant l'âme slave, en se disant qu'en fait, les Russes humiliés accepteront plus quelques déconvenus que des Allemands ou des Français qui crieront quand il y aura une coupure d'électricité de 30 minutes.
Vous avez tout à fait raison, et vous mettez le doigt sur un autre paradoxe qui est un des paramètres essentiels à la compréhension du nouveau jeu international, à savoir que la guerre est infiniment plus coûteuse pour les puissants qu'elle ne l'est pour les faibles. Et ça explique que le champ de bataille du monde est dans un premier temps glissé vers le sud et l'est, vers le sud, vers l'Afrique, ou vers l'est, le sud-est. Ah oui, mais surtout le Moyen-Orient, le Grand Moyen-Orient, et ça jusqu'au Pamir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire effectivement, le pauvre a moins de risques d'utiliser l'instrument militaire que le riche, parce qu'il a moins à perdre. Et d'autre part, parce que il est inséré dans un jeu qui tend à privilégier l'arme, l'instrument militaire comme élément, non pas de victoire, mais de perturbation. C'est la raison pour laquelle il n'y a plus de victoire militaire pratiquement aujourd'hui, et s'appuie sur cette capacité perturbatrice pour ainsi dissuader le riche, le fort, qui lui est de loin le mieux armé, le mieux équipé sur le plan militaire, mais dont l'usage de l'instrument militaire risque de se révéler le plus coûteux, voire carrément impossible.
Alors quelque part, on peut dire que d'un point de vue régional, la Russie donne dans le jeu de puissance à son XXe siècle, et d'un point de vue international, cette fois-ci, elle joue les perturbatrices, donc en fait, on en revient à la puissance de la faiblesse, c'est-à-dire,
c'est ça.
Je perturbe le jeu international en dominant le jeu régional et en obligeant les maîtres du jeu international à entrer dans l'arène ou alors à déclarer forfait.
C'est exactement ça, et c'est dans cela aussi que on peut faire un rapprochement entre le jeu russe et le jeu chinois. Vous trouvez exactement la même chose. La Chine a sa périphérie, a ce jeu de puissance régionale, et dans le monde, un effet en même temps de pénétration-perturbation. Mais la différence, c'est que la Russie n'a pas les moyens d'aller au-delà de la simple perturbation, là où la Chine mise sur sa capacité de maîtriser la mondialisation, parce qu'elle est économiquement beaucoup plus équipée, beaucoup plus outillée.
Mais est-ce que justement ces puissances moyennes, perturbatrices, ne s'illusionnent pas un peu? Est-ce que finalement les métropoles, les grandes métropoles mondiales, qu'elles soient les métropoles du Nord, du Sud, de l'Est, en Afrique, en Asie, en Russie ou en Chine, est-ce que ces grandes métropoles ne sont-elles pas toutes consuméristes et travaillées par la peur de la pénurie au point où finalement la révolution peut arriver autant à cause d'une crise du blé, en fait, liée à l'augmentation certaine des cours avec ce qui se passe en Russie. Elle peut arriver une crise du blé qui créerait des problèmes en Afrique subsaharienne ou une crise de la ressource financière en Russie. Est-ce que, finalement, toutes ces métropoles, tous ces pays avec des grosses villes n'ont pas autant à perdre à des stabilités financières, monétaires liées à la mondialisation?
J'irai même un petit peu plus loin encore. C'est-à-dire que vous touchez là le fond des choses. Le fond des choses, c'est qu'aujourd'hui, la pression, la dynamique qui vient des sociétés se révèlent plus déterminantes que celles qui viennent des gouvernements et des États. Alors, ça joue dans le sens que vous décrivez, c'est-à-dire ces besoins sociaux, ce besoin de mondialisation, ce besoin de ressources qui, effectivement, rend la guerre coûteuse et coûteuse également pour les plus faibles, parce que s'il y a une crise du blé, ce sont les consommateurs africains, par exemple, qui vont être les premières victimes. Mais ça joue aussi contre les perturbateurs, parce que ce que probablement, dans son vieux cerveau de stratège d'il y a du siècle dernier, M. Poutine néglige, que s'attaquer à une société, quelle qu'elle soit, c'est maintenant prendre un grand risque. On s'est attaqué par deux fois à l'Afghanistan, la première fois c'était les Soviétiques, la deuxième fois c'était les Américains. Eh bien, la société n'a pas laissé faire. Et pourtant, la société afghane est faible, elle est même démunie. Bon. Et maintenant, si on s'attaque à la société ukrainienne, c'est un autre bourbier qui se prépare, peut-être autrement plus douloureux que le bourbier afghan, pour la Russie de M. Poutine. Et ça, ces rodomontades n'y changeront rien.
Ou alors peut-être qu'il imagine casser les instruments de guerre de l'Ukraine et se retirer en gardant juste les zones russophones. On va voir tout ça. Mais comment régler pacifiquement une telle crise quand les puissances de premier plan, les États-Unis et la Russie, sont membres du Conseil de sécurité de l'ONU et ont l'opportunité, le pouvoir de le prendre en otage? Parce que déjà, il est pris en otage sur la crise au Moyen-Orient, et il est pris en otage en réalité depuis la guerre en Syrie et le sentiment d'humiliation et de trahison que les Russes et les Chinois ont vécu lors des dossiers ivoiriens et libyens. Est-ce que le Conseil de sécurité est déjà mort?
Vous avez raison, il est mort. Et le Conseil de sécurité, il appartient au XXe siècle, il n'appartient pas au XXIe siècle. Il est complètement déconnecté par rapport à ses réalités sociales, par rapport aux besoins sociaux. C'est précisément l'ambassadeur russe au Conseil de sécurité, M. Vladimir Nebenzia, qui a dit une fois cette chose incroyable, à savoir que discuter des questions de changement climatique au Conseil de sécurité était non seulement inutile, mais contre-productif. Vous vous rendez compte de l'audace et le fait que M. Nebenzia et la Russie soient totalement déphasés par rapport aux réalités actuelles. Donc ce multilatéralisme-là est mort depuis longtemps. Le Conseil de sécurité, c'est un jeu d'ombre qui n'a absolument prise sur aucune des réalités conflictuelles que nous connaissons aujourd'hui. Le vrai multilatéralisme, c'est celui que nous devons pour l'essentiel à Kofi Annan, c'est-à-dire un multilatéralisme social qui autour du PNUD et de son fameux rapport sur la sécurité humaine, prend en compte les besoins sociaux et essaye d'y répondre. C'est comme ça, c'est par l'intégration sociale du monde, par la tentative de soigner les souffrances sociales du monde, que l'on pourra construire un nouvel ordre de paix.
Mais le problème avec l'affaiblissement du Conseil de sécurité, c'est qu'il ne peut pas y avoir des guerres éclairs tactiques, parce que imaginons qu'il était toujours puissant, la Russie entre en Ukraine, détruit certaines infrastructures, se retire partiellement, et là, la diplomatie entre en jeu, parce qu'il y a des résolutions internationales qui encadrent finalement le reste de conflictualité. En l'absence de force du Conseil de sécurité, on a peur d'une sorte de conflit qui dure, et qui vraiment recherche la victoire totale, et donc l'écrasement, la barbarie.
– Oui, mais… Soyons honnêtes, depuis que le Conseil de sécurité existe, c'est-à-dire depuis 1945, il n'a pu résoudre aucun conflit. Soit les conflits se résolvaient par accord entre les partenaires, soit ils se pérennisaient. Vous citiez le cas du conflit israélo-palestinien, il est tout à fait remarquable de ce point de vue-là. On pourrait dire la même chose des conflits africains. Donc, il faut complètement changer la grammaire de la diplomatie mondiale, mais ça veut dire… surmonter les vieilles illusions de la puissance.
Et comment parvenir à accepter que ce qui est mort est mort ?
Eh bien, je ferai une réponse cynique, c'est lorsque les princes de ce monde comprendront que leur puissance vieille facture leur est plus coûteuse qu'une puissance raisonnée, ce que dans mon dernier livre j'appelle la puissance mondialisée, c'est-à-dire une puissance qui tienne compte des réalités mondiales. Vous savez, il est arrivé à un moment où la solidarité est économiquement plus utile que la puissance.
Dernière question, est-ce que la France peut jouer dans ce conflit qui s'annonce la stratégie du non-alignement ? Emmanuel Macron a décrit Vladimir Poutine comme parano. Est-ce que la France peut, disons, être autre chose qu'une sorte de dominion américain dans ce conflit
Vous savez, certains ont parlé de médiation française. Ça ne pouvait pas être une médiation. Il n'y a pas d'équidistance entre la position française vis-à-vis de Poutine et vis-à-vis de Biden. Hein. La France est membre de l'OTAN. La France fait partie de l'Union européenne. La France a ouvertement déclarer sa solidarité avec l'Ukraine, et encore ce matin dans un communiqué de l'Élysée. Ce qu'elle peut faire, c'est mettre son histoire, sa diplomatie, au service d'une recherche active de nouvelles approches du jeu diplomatique, ce que j'appelais tout à l'heure ce besoin de renouveler la diplomatie mondiale.
Que ce qui vous attend, c'est ça peut être à la fois quelque chose de ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que en fait vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Le problème, c'est que on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous leur loi. Enfin, c'est pas que j'en fous leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils ont pas leurs papiers. Si la loi, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, vous écoutez les Régors chaque semaine sur l'écho des Garrigues à Montpellier, Canal Sud à Toulouse et bien évidemment Radio Primitive sur 1 sur cette émission réalisée. Vous pouvez retrouver nos émissions sur le blog Le Chat Noir 51 et sur le site oclibertaire.l'autre.net.
sometimes.